vous allez écouter Une tisane et au lit, une heure d'échange convivial autour d'une thématique de la vie quotidienne présentée par Marie-Cécile Dricourt.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Tisane et au lit. Le thème du soir est les optimistes sont-ils hors de la réalité ? Et autour de la table avec moi, est-ce que tu peux te représenter, Julie ?
Bonsoir, Julie Escalier, je suis agent immobilier, chef d'entreprise sur Avignon et sur Graveson.
Très bien. Et deuxième invité, Geneviève.
Bonsoir, ben moi je suis nomade et mon copain s'appelle Gripoil.
C'est ça. Et ensuite, Pascal. Bonsoir Pascal.
Bonsoir tout le monde.
Tu peux nous rappeler ce que tu fais ?
Pascal, la conseillère enseignante de Fleur de Bac de la Péniche Altea.
Parfait. Et à côté, Séverine.
Et moi je suis Séverine, je suis la créatrice de la Péniche Altea à Avignon sur l'île Pio.
Et ben merci d'être venues les filles et bienvenue aux nouvelles. Donc ce soir, on va parler optimisme. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je suis arrivée sur la péniche avec beaucoup d'énergie positive et de bonne humeur. Quelqu'un est arrivé et il n'était pas de très très bonne humeur. Et il nous a raconté plein de choses hyper négatives. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, je suis un bisounours et je vis dans un monde parallèle où moi, j'ai pas envie forcément de me focaliser sur ce qui est négatif. Et donc ça m'a un peu plombé la journée, c'est pas forcément pour ça que j'en reparle, mais je me suis dit tiens ça peut être intéressant de parler de l'optimisme et de savoir aussi si on est optimiste, est-ce qu'on est complètement hors de la réalité ou est-ce que c'est juste une manière de vivre et pourquoi pas, voilà. Voilà. Donc j'avais envie de parler de ce sujet, donc déjà j'ai une première question pour vous, est-ce que vous vous considérez comme optimiste ou pas ?
Alors moi définitivement oui. C'est un choix.
C'est un choix.
L'optimisme, il y a des gens qui peuvent arriver sur Terre en étant optimiste. Moi, c'est un choix.
D'accord. Donc, ça veut dire que tu ne l'étais pas ?
Non, okay. Je ne l'étais pas forcément. Et à un moment donné, j'ai fait le choix d'être optimiste. Pour plein de raisons que je développerai pendant la discussion, mais c'est un vrai choix. Mmh. Et de la même manière que l'optimisme est peut-être un choix, le bonheur est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus.
Super. Julie ?
Moi, je suis une optimiste peut-être née. Positive, c'est sûr. Après, oui, ça se cultive. Je dirais même quand c'est né comme ça, ça se cultive. Parce que le monde autour de nous ne nous appelle pas à être toujours optimiste et positive. Donc, ouais, je pense que je suis une vraie optimiste.
Pascal ?
Alors, un peu les deux, positive, optimisme. En tout cas, j'ai l'impression que c'est être bien élevé que de montrer son côté positif devant les autres. Parce que ce qui t'est arrivé, je trouve que c'est peut-être un signe d'être mal éduqué.
D'accord. Donc c'est...
On devrait montrer, il y avait une phrase de je ne sais pas qui, je ne m'en souviens plus. Mais on devrait montrer en tout cas du positif, de quelque chose de positif devant les autres. Même si chez nous ça va très bien, même si on peut avoir des difficultés, je trouve ça intéressant de montrer un côté positif. On n'est pas obligé d'aller justement déverser sa négativité sur les autres.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Et ça arrive très souvent qu'on vienne déverser sur nous des choses négatives qui ne sont pas si faciles à gérer pour nous après. Mmh. Après, on en reparlera, on continuera. Oui. Il y a des fleurs de Bac pour ça.
Bien pour ça qu'on t'invite.
Entre autres. Mais en tout cas, vaste sujet que la positivité.
Ouais.
Moi, je suis plutôt optimiste, mais du coup, je me disais que les personnes ont aussi le droit de déverser du négatif. Mais moi, je pense que je suis profondément optimiste. Du coup, j'accueille avec bonheur le négatif des autres.
Contrairement à moi.
Non, c'est pas ça, mais c'est... Je pense que... Après, je sais pas vers où on va aller, mais je pense que pour moi, l'optimisme, il est lié à l'environnement et que c'est un choix de se couper aussi de l'environnement pour pas avoir toutes les mauvaises nouvelles en permanence et pas être enseveli par les mauvaises nouvelles tout le temps. Et du coup, de garder un petit côté optimiste permanent. Ouais. Mmh. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui rentre dans la bulle avec un peu un bulldozer. Ouais.
Oui, c'est là où je me demande, effectivement, est-ce que c'est pas, en tout cas dans la société qu'on a aujourd'hui, le fait de se mettre hors de la réalité que d'être optimiste. Parce qu'effectivement, je pense que moi, je suis née optimiste, clairement. ça se cultive, je suis d'accord avec toi, Julie. Mais je fais aussi attention à ne pas être entouré de, d'informations négatives ou à regarder les infos, par exemple, à la télé ou des choses comme ça qui font que je trouve que tu t'en prends tellement de négatifs dans la figure qu'au bout d'un moment, il faut encore plus se battre pour rester positif. Donc, c'est là où ma question était, est-ce qu'au final, je ne suis pas, ou les gens optimistes ne sont pas des gens hors de la réalité, puisqu'on finit par se couper, ou en tout cas, comme tu disais, d'une manière de présenter les choses aussi, de se dire, tiens, je vais le faire pour les autres. Mais est-ce qu'à l'intérieur, c'est ce que tu es vraiment ?
Je trouve que c'est une élégance vis-à-vis des autres.
D'accord.
Ah oui, définitivement.
Mais c'est une élégance ou c'est une obligation que tu te donnes
C'est un art de vivre, oui, que j'essaie de cultiver en permanence. Je ne peux pas arriver dans un endroit en déversant, en vomissant mon petit problème sur la route ou mes difficultés. Je trouve ça désagréable pour les autres.
Oui, mais du coup, quand c'est quelque chose de plus global et que c'est quelque chose qui a trait à l'entourage, pas forcément un problème personnel, quand c'est quelque chose, une guerre ou n'importe quoi, ou un problème social, de société, sociétal, etc., et que tu arrives en disant « mais j'ai vu ça, et j'ai entendu ça, et j'ai trouvé ça tellement triste », et du coup, tu t'es négatif, mais c'est pas, ça t'est pas propre, du coup, c'est pas forcément une élégance de pas en parler. Enfin, t'as le droit de partager des choses qui sont pas positives.
Alors, l'élégance, c'est pas de pas en parler, parce qu'après, on peut discuter d'un sujet. Mais du coup, on vient pas déverser notre manque de positivité. En fait, c'est un peu comme ça que je le voyais. Ou notre défaitisme. Mais voilà.
Et peut-être qu'on peut mettre une nuance entre se déverser et dire comment on est. C'est-à-dire que, dans d'autres cultures, ne pas dire comment on est et s'obliger à tout le temps sourire sur une photo ou tout le temps dire qu'on va bien ou finir par poser la question « Salut, ça va ?» et ne même pas attendre une réponse parce qu'en fait, on ne demande pas réellement à la personne si ça va. C'est une forme d'expression, une expression, hein, mais qui n'attend pas de réponse. Et du coup, il ne faudrait pas non plus partir dans l'excès inverse. De ne pas dire qui on est et comment on est à un instant donné. Et on peut très bien dire non, je ne vais pas bien, sans pour autant se déverser. Donc l'élégance, c'est le déversoir, de ne pas tomber dans le déversoir.
C'est ça.
Par contre, la pensée positive n'est pas une obligation. On peut ne pas aller bien, dire qu'on ne va pas bien, sans pour autant se déverser.
C'est ça. Tout est une question de nuance, j'imagine.
Oui, je pense que ce jour-là, je n'étais pas prête, mais c'était autre
peut-être
chose.
Peut-être tu peux raconter ce qui t'est arrivé, comme ça,
Non, pas du tout. C'est même pas le sujet, en fait, qui était ça. C'est vraiment là où j'ai le sujet de... Enfin, l'idée du sujet du podcast, c'était... C'est pas par rapport ni à ce que la personne est venue nous raconter ou la personne en question ou quoi que ce soit. C'est vraiment qu'à un moment dans la conversation... Je me suis dit, mais en fait, moi, j'écoute plus les infos. En tout cas, j'écoute les infos que moi, je choisis. Ce que tu disais, Geneviève, sur le choix, ou toi, Julie, sur la partage cultive. Parce que, justement, je me rendais compte que quand tous les soirs ou tous les matins, je me prenais les infos négatives dans la figure, bah, ça me mettait dans un mode négatif, et donc, c'était pas bon. Et qu'au bout d'un moment, il discutait avec Séverine. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je me mets dans un monde de binous-ours et je suis... peut-être hors de la réalité,
ouais,
et que bah, le fait de se mettre hors de la réalité, c'est peut-être pas forcément bon, en fait. Donc c'est même pas ni le sujet ou quoi que ce soit, c'était sur un sujet de société, et il y avait des points sur lesquels j'étais d'accord avec lui, mais c'est vrai que je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, à force de cultiver cet optimisme-là, je me retrouve hors de la réalité, et que peut-être qu'un jour, la réalité va revenir me mettre une bonne claque dans la figure, et je vais m'écrouler, mais voilà, et c'est de là où m'est venu le sujet, en fait. C'est plutôt ça que le sujet en lui-même qui n'était pas forcément... Voilà. C'était un jour où j'étais contente, j'ai peut-être pas juste envie d'attendre des trucs négatifs, mais voilà. Et toi, Julie, tu fais comment, par exemple, pour le cultiver ?
Oui, j'écoute les infos, je suis au courant de l'information, mais j'écoute pas. D'abord, je regarde pas la télé parce que je trouve que les images rajoutent de la violence à la violence et de la colère à la colère. Parce qu'en fait, souvent, tu as des clients qui sont. Tu sens qu'il y a une colère latente chez les gens, dans leur manière de s'exprimer, dans leur manière même de dire bonjour, quoi. Il y a une forme de colère. Et c'est vrai que pour le coup, je me dis que c'est sûrement des gens blessés parce que. Ou des gens qui. Enfin, la société ne cultive pas forcément l'optimisme.
C'est vrai.
Moi, j'ai une société cultive le pessimisme.
Voilà. J'ai une anecdote. Je peux la raconter maintenant.
Vous avez...
Mais avec plaisir.
Vous avez dit que tu avais une anecdote.
J'avais dit. Non, je la raconte pas souvent parce que normalement, ma mère la raconte. Et c'est une anecdote. J'étais au lycée et notre prof nous dit « Vous devez faire un devoir sur comment vous voyez l'avenir. » Ah ben moi, je fais mon devoir, je rends mon devoir, j'étais toute fière de moi. Et quand elle rend les devoirs, elle dit, bah écoutez, vous avez bien bossé, sauf qu'on a quelqu'un qui ne vit pas sur la même planète que nous, semble-t-il, on a Julie. Et donc là, je ne comprenais pas. Et puis elle explique tout ça devant toute la classe et tout. Donc je fais, ouais, je ne comprends pas, je vais la voir à la fin. Non, je ne vais pas la voir à la fin du cours, je rentre chez moi avec ma truc et mes parents me disent, mais tu veux qu'on aille la voir ? Je dis non, je vais aller la voir moi parce qu'il fallait que je comprenne. Parce qu'en fait, moi, j'avais juste dit, je me suis juste dit, je vis dans un beau pays qui m'offre plein d'opportunités, j'ai pas de problème de santé, il n'y a pas de problème autour de moi, et même s'il y a les problèmes du quotidien. Et du coup, j'avais présenté ça de manière simple, quoi. Ben, mon avenir, il va être chouette parce que finalement. Et donc, du coup, je suis allée voir cette prof et je lui dis, mais je comprends pas, en fait, déjà, je comprends pas comment vous pouvez m'interpeller comme ça devant toute la classe. Et puis, en plus, je comprends pas pourquoi vous vous inquiétez pas du reste de ma classe, parce que je trouve que dans notre pays, avec nos conditions de vie, d'éducation, etc., comment on peut imaginer qu'on peut avoir un sale avenir, quoi ? Parce que, après, oui, il y a des choses qui se passent terribles dans le monde, mais ça ne m'appartient pas. Moi, ma seule chance, c'est de pouvoir me battre contre ça, comme je l'entends, et avec des outils formidables que sont l'éducation, la culture, etc. Donc, c'était un peu ça, c'est un peu ça l'anecdote. Et c'est pour ça que je pense que je suis née positive, parce qu'en fait, ça ne m'a même pas traversé l'esprit de parler de la misère dans le monde, parce que foncièrement, elle ne me touche pas. Je fais des choses, j'ai entrepris ensuite des choses pour faire ce que je pouvais dans les sujets qui m'interpellaient. Mais voilà, ça ne nous appartient pas, tout ça. Et je crois que finalement, notre société qui cultive le pessimisme, elle alimente les colères, les peurs de manière...
La peur, surtout.
La peur.
C'est la peur qui fait tellement de mal.
Oh ben ça fait
la peur permet de manipuler les gens, donc on a intérêt à ce que les gens aient peur.
Ouais, complètement. C'est vrai que... Et je suis d'accord avec toi sur les images. Je pense que ça pousse à... déjà, tu peux encore plus contrôler les images. Et en plus de ça, oui, ça te met... C'est vrai que quand on parle d'un attentat ou de la guerre ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin d'avoir des images, en fait, pour m'imaginer l'horreur que c'est et quoi que ce soit. Mais quand en plus, on te rajoute des images bien trash, obligatoirement, oui, tu peux pas sortir de là complètement indemne. Et je trouve qu'en plus, ça t'empêche d'avancer, en tout cas. Quand tu as vu ce genre de choses, tu te dis effectivement, je peux rien faire. Enfin, ça m'appartient pas à la difficulté des autres. Je peux rien faire pour arranger le monde. Et donc, comme je peux rien faire pour arranger le monde, j'avance pas. Et donc, je fais rien, au final. Parce que de toute façon, je n'arriverai jamais à changer le monde, ça, c'est certain. Et c'est là où je trouve que, voilà, des fois, de me mettre un peu hors de la réalité, ça peut être pas mal. Ça évite.
Mais finalement, c'est la réalité de chacun. C'est quoi une vraie réalité et c'est quoi la bonne réalité ? Je crois qu'on a chacun notre réalité et du coup on vit avec notre réalité et je ne sais pas s'il y a une vraie réalité ou une fausse, je ne sais pas, finalement. Est-ce que quelqu'un toujours dans le pessimisme va être dans une vraie réalité ou nous,
en étant chaque personne va être dans sa réalité, très clairement. Et sa réalité, c'est comment on s'est construit, qu'est-ce qu'on a vécu et comment on choisit d'aborder les choses, parce que quels que soient nos antécédents, on peut aussi... Je veux dire, on est 100% responsable de ce qu'on en fait et de comment on décide de réagir et d'interagir avec ça.
Mais non, c'était juste pour revenir à l'histoire d'alimenter les peurs, là, et je me disais... Ça fait un petit moment que j'ai cette idée-là, en fait. J'ai vraiment l'impression que... c'est un peu comme s'il y avait deux grosses bulles et il y a vraiment des choses qui alimentent le négatif, mais c'est pas forcément que les guerres et la misère, etc., hein. C'est les mouvements sociaux, c'est la politique, c'est toutes ces petites choses en fait qui sont surajoutées et qui nourrissent quelque chose de négatif chez beaucoup de personnes. Et moi, j'ai pris la décision de m'éloigner de ça, mais c'est une vraie prise de décision en fait, de se dire, mais j'ai pas envie d'entendre ça toute la journée, je sais que ça existe, j'en ai conscience, j'ai pas besoin qu'on me le rabâche tous les jours, et j'ai envie de nourrir un truc positif. Donc du coup, en faisant des choses positives, je me dis que, un peu comme dans, je sais pas, dans Star Wars, le bien et le mal, je me dis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va remonter et qui va faire basculer cet état d'esprit global, parce que il y a vraiment, et ça fait un moment que c'est comme ça en France. Et c'est effectivement, c'est sûrement pas le cas dans les pays qui sont en guerre, etc., parce qu'ils ont un peu autre chose à faire. Mais du coup, en France, moi, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'il y a quelque chose qui nourrit le négatif en permanence, en fait. Et en permanence, et ça vient des sources infos, ça vient de tout ça, des médias notamment, quoi. Oui,
oui, puis je pense que la culture française aussi est très facilement dans la critique et dans le négatif. Notamment, enfin moi je trouve que par le système éducatif où on va te dire, on te note en te disant tout ce qui va pas et au lieu de te dire bah, ça c'était bien mais il y avait ça à améliorer. J'ai lu justement une publication ce matin sur Facebook qui était marrante sur, je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais peu importe, c'est une histoire, sur une prof qui écrit au tableau, une prof de maths, et qui écrit la table de 9 et qui écrit 9 fois 1, 7, 9 fois 2, 18, 9 fois 3. Et puis voilà, elle enchaîne toute la table de 9 et bah jusqu'à 10, elle a bon, mais le tout premier, elle a fait une faute. Et donc dans la classe, tous les gamins rigolent en disant « Ah, bah, vous êtes trompés, vous êtes trompés ». Et la prof leur dit bah voilà, là je voulais juste vous apprendre que dans votre vie, vous allez, bah, surtout on va vous critiquer sur ce qui va pas. Alors qu'en fait, sur 100% de ce que j'ai fait, il y a 10% là dans ce que j'ai écrit qui est pas bon et tout le reste c'est bon. Et en fait, bah, focalisez-vous sur ce qui est bien au lieu de vous focaliser sur ce qui est pas bien parce que voilà, oui, j'ai fait une erreur, mais en fait, les neuf autres lignes étaient bonnes, quoi. Et là, tout ce que vous me dites, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. Et je trouve que dans la manière dont on éduque aujourd'hui, enfin, c'était déjà le cas à nos générations, hein, mais on vous dit ce qui va pas, mais on vous dit jamais ce qui va bien. Donc après, quand on arrive dans la vie adulte et qu'on vous demande de travailler, de trouver des idées, d'être créatif, bah, c'est compliqué parce qu'en fait, toute votre vie, on vous a dit que ce que vous faisiez, c'était pas bien. Donc moi, je trouve qu'il y a ça aussi. Après, je pense que c'est assez culturel aussi. Toi, Geneviève, qui va faire le tour du monde, tu reviendras et tu nous diras si tu as trouvé des cultures plus optimistes. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment ça. Il y en a, mais c'est certain. Mais je suis assez d'accord avec toi, Séverine, sur le fait de faire des choses à son échelle et... c'est ce que tu fais avec la péniche, voilà, c'est ce que... Alors, elles ont un micro pour deux entre Pascal et Séverine.
Elles se battent.
Moi, je viens...
De manière positive, mais elles se battent.
Vas-y. Non, je voulais juste rajouter un truc, c'était... Et c'est pas parce qu'en fait, on fait le choix de se dire « je nourris pas le négatif » qu'on est débile, en fait. C'est ça, le truc. Ouais. C'est pas parce que... On fait le choix de se dire qu'on va aller voir le côté positif des choses et qu'on peut changer les choses effectivement à son niveau machin, qu'on est neuneux, quoi. Ça n'a rien à voir en fait. C'est un peu ça.
J'ai un exemple.
Je suis complètement d'accord.
Avec mon mari, ex-mari, c'est quelqu'un qui voyait toujours le négatif partout. Par exemple, nous prenions la voiture, il y avait un petit bouchon. Oui, la voiture, puis tous ces gens, qu'est-ce qu'ils font, hein. Et j'étais là, ouais, trop cool, on va pouvoir mettre de la musique, on va chanter à tue-tête. Et entre lui et moi, ça a toujours été ça. Il voyait du monde à une queue de supermarché. Je disais, ah, trop bien, on va pouvoir méditer, on va se poser, nanana. Est-ce que ça, voir le positif de chaque situation, c'est une tare ou ça ne l'est pas? En tout cas, moi, ça me permet de vivre.
Je pense que grave, tu vivais mieux les bouchons
cool.
que lui.
J'ai tout vécu beaucoup plus cool.
Ah, c'est sûr.
Et d'ailleurs, j'ai toujours du bol. J'arrive à une caisse, ça passe tout de suite, ou il y en a une qui ouvre à côté, alors que lui, le pauvre... Il n'a jamais eu. Il lui arrive toujours, comme il est toujours dans le négatif, et ben il lui arrive, en paricochet, toujours beaucoup de choses négatives.
Ce n'est pas le pauvre, c'est qu'il a un gyrophare sur la tête avec son négatif et qu'il attire à lui les situations négatives. C'est une question d'aimant, quoi. Je veux dire, c'est une question de loi d'attraction, de ce qu'on veut. Je veux dire, à partir du moment où on dégage du négatif, ce qui va nous tomber sur la tronche, c'est du négatif. Si on essaye, si on fait le choix du positif, ce qui va nous arriver dessus, c'est du positif. Juste, il faut l'enclencher.
Moi, je dis pas, je suis pas toujours dans le positif. Les seuls, je crois en fait qu'on agit. Enfin, moi, j'ai analysé que j'agis toujours par amour ou par peur. Et les seuls moments où le négatif peut travailler, enfin, peut être présent chez moi, ça va être quand j'agis avec mes peurs. Et du coup, c'est là que je me reconnais pas. Et c'est pour ça. Et c'est aussi cette société là qui est alimentée. On l'a dit tout à l'heure déjà. Et la notion de peur, pour moi, elle est très très liée au positif et au négatif, parce que ben, quand tu as peur, tu es pas dans tes éléments. C'est pour ça qu'après, voilà, faut pas que les gens croient que enfin, moi des fois je suis dans un bouchon, je râle, voilà, mais c'est...
c'est
ça. Et après, juste, je voulais rajouter que hors de la réalité, je l'ai pas souvent entendu, mais souvent j'ai entendu dire t'es pas un peu hors sol. Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression d'être hyper enracinée pour le coup.
Je veux dire, les gens qui, justement, c'est tellement devenu une espèce de passage obligé que d'être pessimiste, collapsologue ou je ne sais trop quoi, je veux dire, justement, ces gens-là sont hors sol. Parce que si on est complètement enraciné dans la vie, je veux dire, après, c'est une question de regard, c'est une question... Alors moi, il y a un truc que j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps qui me revient là, c'est voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ceux qui voient le verre à moitié vide, qui changent de verre, ils prennent un verre plus petit, ils arrêtent d'emmerder les autres, quoi.
Il y a un peu de jugement là quand même.
Oui, mais quand même, au bout d'un moment, si tu veux. Si tu veux. Voilà. Non, mais ça me touche. Oui, je suis touchée quand j'entends des gens qui, justement, qui sont en train de juger en disant mais t'es pas un peu hors sol, genre t'es pas un peu neuneux, ou t'es pas un peu ci, t'es pas un peu là. Mais à force d'être hors sol, à force de ne plus être dans nos racines profondément ancrées dans la vie, on chope des peurs, mais monumentales, qui font qu'on devient pessimiste. Et si on est profondément enraciné et qu'on est dans son axe, oui, il peut nous arriver des choses vraiment difficiles. Et on va avoir, parce qu'on est bien enraciné, on va avoir le recul et la solidité et la force de se dire « Ok, je viens de me prendre une grande claque et je fais le choix d'aller de l'avant. » Parce que j'ai les racines et l'assise suffisante pour le faire.
Mais après, c'est pas grave qu'on lui dise qu'elle est hors sol. Comment t'as vécu ça quand on te prenne pour un hors sol?
Moi, je vis tout bien parce qu'en fait, je regarde celui qui me le dit.
Voilà.
Et du coup, je me dis, waouh, la chance que j'ai.
Voilà.
En fait, sans jugement, mais quand
génial.
Même.
Non, après, c'est ça. C'est les gens qui. C'est l'effet miroir. Enfin, tu vois, t'es hors sol. Oui, je suis différente de toi. Oui, peut-être.
Et heureusement.
Et j'en suis heureuse, même si voilà, je respecte les choix de chacun. Parce qu'après, on choisit aussi. On fait un choix à un moment d'être alimenté. Les gens, souvent, je leur trouve l'excuse. Je me dis, ils ne savent pas faire. Voilà, ils ne savent pas faire.
Chacun va à son rythme. Si on peut au moins reconnaître ça, chacun va à son rythme. On peut juger. Déjà, on se fait du mal à nous aussi. On va dans le même cercle qu'eux. Alors que dire, j'ai de la chance, je suis un peu plus cool dans ma vie.
Je suis hors sol, je suis au niveau des nuages, c'est-à-dire.
C'est génial, avec le mot hors sol, ça fait un peu une navette spatiale, c'est vachement sympa.
C'est pas mal.
Mais oui, voilà, après, chacun fait comme il peut. Hein.
Ça, c'est mon côté pessimiste qui refait surface parce que moi, quand j'entends hors sol, je pense agriculture et l'agriculture hors sol, elle est pas cool du tout.
Moi, je pense nuages.
Ah ouais, moi c'est nuages, c'est la fée clochette. Moi, je vois la.
C'est ça, des paillettes qui volent partout.
Moi, je pense à une piscine, hein, je suis désolée. Hors sol.
Et c'est moi qui suis dans l'immobilier.
Voilà, c'est ça. Chacun sa référence, chacun sa manière d'appréhender les choses.
Elle vient de faire 3 devises pour ça.
Elle prépare l'été, donc voilà.
Ne lui en voulez pas.
Y aura-t-il une péniche sur la piscine?
une piscine sur la péniche hors sol.
Tu es peut-être un petit peu en dehors de la réalité, je
crois. Ah oui, moi je suis.
Il y a une très grande piscine, elle s'appelle le Rhône.
Oui.
Elle est belle.
Elle est belle, c'est vrai. C'est vrai. C'est très belle. Très belle piscine, mais on se baigne.
En tout cas, l'optimisme nous aide la positivité à mieux vivre. Ça, c'est sûr. Oui. Moi, je pense bien qu'on me traite d'hors sol, ouais. De piscine, de tout ce que vous voulez. Mais quand même, c'est vachement plus cool d'être positif.
Ah bah oui, moi je pense vraiment que ça aide à avancer, surtout quand on a des moments très difficiles. Je pense que, enfin clairement, je pense, avec ta maladie, Julie, ça a dû t'aider énormément.
Oui, et puis plein de choses, puisque après, ouais. Du coup, les gens croient, un jour on m'a dit, mais toi, t'as jamais, tu sais pas ce que c'est les échecs. Ah, je dis, Et je me disais, c'est vrai, j'ai pas beaucoup eu d'échecs dans ma vie, je me suis posé 1000 questions. Hein. Et j'ai une copine, elle me dit, mais c'est normal, Julie, toi, tu sais pas ce que c'est les échecs. Les échecs, pour toi, c'est juste des épreuves. Donc, une fois que tu as passé l'épreuve, quand on a une maladie comme toi, tu as passé aussi des épreuves. Dans nos entreprises aussi, on a des épreuves. Il y a eu des fins de mois difficiles, un chef d'entreprise, quoi. Donc, des périodes très, très difficiles financièrement. Et pour autant, on s'en nourrit et puis on est encore plus fort derrière, quoi. Donc, c'est ça aussi le positif, je crois.
Sur la thématique de l'échec, de l'épreuve, etc., bon, ça, c'est très, très français. Hein. Mmh. Et on fait toujours le comparatif. T'as une faillite en France, t'es considéré comme nul. T'as une faillite, notamment aux États-Unis, on considère que tu es très expérimenté, que tu sais comment éviter une faillite. Et que,
c'est ça. Au bout de la troisième, tu commences à avoir une entreprise qui est viable.
Voilà. Mais du coup, je vais y aller de ma petite citation, mais un échec, c'est quand on tombe et qu'on reste au sol. Dès qu'on se relève, c'est une expérience.
C'est un apprentissage.
Je suis pleine d'expérience.
C'est ça.
Je suis hyper expérimentée.
Bon, elle a des cheveux bleus sur les jambes.
Mais... Ouais, c'est ça, des petites croûtes, mais ça va.
Ça va.
Femme avec expérience, sans croûtes.
On peut parler des croûtes ou pas?
Mais c'est promis, on ne va pas s'encrouter.
C'est ça, on va essayer. Non, mais c'est pareil, Geneviève, pour partir en voyage comme ça, seule, au bout du monde, juste avec Gripoil, certains peuvent se dire que tu es aussi hors sol, trop positive, parce que tu te dis que tout va bien se passer, que tout ceci, que voilà. Certains vont se dire, elle est folle, elle va se faire agresser, c'est dangereux.
Mais d'ailleurs, eux se feront agresser.
C'est ça.
Oui, ce qui m'empêche pas d'avoir des peurs. Et, mais juste, ces gens-là, j'ai vraiment pas envie de les entendre, parce que j'ai déjà mon ami d'en haut, là, qui me raconte au niveau du mental, qui me raconte beaucoup de choses et qui a la trouille. Si en plus je dois prendre le fardeau des autres, mais je leur laisse. Il y a des gens à qui je n'adresse pas la parole et je ne veux pas savoir ce qu'ils pensent de mon voyage. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire. J'y vais avec mes peurs, avec mes doutes, mais avec un doute moteur et pas un doute bloquant.
Mmh. Ouais, toi, Séverine, c'est pareil. Je pense que quand tu as dit je vais ouvrir une péniche. Mais bien sûr.
Oui, c'est sûr. Et ben, après, oui, pour monter des projets, mais je pense quels qu'ils soient, il faut être un peu optimiste, parce que sinon, c'est compliqué, quoi.
Donc, et puis, c'est des projets qui sortent un peu aussi du...
Bah, c'est-à-dire, oui, on se dit que ça va fonctionner et que ça va bien aller, quoi. Voilà, ça va bien se passer. Et du coup, ça se passe bien.
Ouais, ça va
quasiment
couler.
Quasiment bien tout le temps, quoi. Donc, voilà.
En même temps, si tout se passait bien tout le temps, ça serait
peu, pas drôle. Ouais.
S'ennuyer un peu, non?
Ouais, c'est ça. En fait. Non, mais oui, il faut être optimiste.
C'est ça qui serait pas normal. C'est si on pensait que tout allait bien se passer. Le but, c'est pas que tout se passe bien. C'est que nous soyons aptes à passer toutes les étapes. C'est ça, être positif, finalement. À vivre les étapes, à vivre les étapes, à vivre les émotions, à passer les étapes et à grandir. C'est pas que tout aille bien.
C'est ça, c'est-à-dire que les gens qui sont positifs, c'est pas Bisounoursland, je vais bien, tout va bien, il ne se passe jamais rien d'horrible dans ma vie. C'est que les gens qui sont positifs, ils ont des épreuves et des galères comme les autres, et ils décident d'en faire quelque chose de bien.
C'est ça. Enfin, c'est mon opinion.
Moi, je pense qu'on est toutes d'accord.
Moi, c'est bien.
On aurait dû inviter un pessimiste.
Ah, mais oui, c'est ça.
Ça aurait été intéressant.
Ah oui, ça aurait été très
J'ai raté mon coup.
Je suis profondément quelqu'un bâti sur la vision pessimiste des choses.
Eh bien, ça te
va pas bien. J'ai fait un choix à un moment donné. Je veux dire, ça m'a pourri la première partie de ma vie. Je n'ai pas continué avec, quoi. À un moment donné, on est responsable de l'état dans lequel on se trouve. Et si on ne décide pas d'aller mieux... Personne va le faire à notre place. Et tout ce qu'on a dit juste avant sur comment les informations sont divulguées, comment les choses sont organisées aujourd'hui au niveau de la société, c'est pas fait pour qu'on aille bien. Donc si nous, on se prend pas en main pour aller bien, il va pas se passer quelque chose de cool, quoi.
Moi, du coup, j'ai vraiment une image qui m'est restée quand j'ai créé la péniche. J'avais lu un texte inspirant, on va dire, qui disait que qu'il faut se lancer, parce que quand on se lance, il y a le chemin qui apparaît ou le filet qui apparaît, etc. Et du coup, il y a vraiment un côté de se dire je me lance et j'y crois. Et du coup, c'est optimiste d'y croire parce que je connais aussi tout le négatif et tout ce qui peut se passer qui va être négatif. Mais je décide quand même de me lâcher, d'y aller, etc. Et en fait, ça apparaît. Je pense que cette image-là du chemin qui apparaît quand tu avances...
Tu fais ton premier pas et le chemin...
Ouais, voilà. Mais c'est vraiment ça, en fait. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et en y croyant, il y a l'histoire de la croyance. Après, j'avais effectivement autour de moi plein de gens qui me disaient oh, « Mais ne fais pas ça, mais ça va être super compliqué. Il va y avoir plein de travaux, tu vas avoir plein d'ennuis, mais c'est compliqué d'être sur une péniche, il y a plein de choses à faire, etc. » Donc oui, il y a plein de choses à faire, ça c'est sûr. Et en même temps, j'ai vu que le côté positif, du coup, ce qui m'a permis d'avancer. Sinon, c'est un vrai blocage, en fait.
Ah bah sinon, tu fais jamais ça. Il y a trop d'eau. Hein.
Il y a trop d'eau.
Il y a trop d'eau. Non, mais c'est vrai, il y a plein d'eau ça, à côté autour d'une péniche.
Ah bah là, oui, c'est le problème. C'est que...
Mais ça aide, oui, c'est vrai que ça aide à avancer, de voir la vie d'un côté positif, quand même.
Ben, là, justement, j'ai lu un texte la dernière fois sur « Faut-il sourire, toujours sourire au travail ?» Et dedans, il citait un psychologue américain qui s'appelle Sean Acor, je pense que ça se prononce comme ça, qui a écrit The Happiness Advantage, et qui dit qu'en fait, pour les vendeurs, 75% des ventes, enfin des c'est ça, du succès des vendeurs reste dépend de leur optimisme. Donc, c'est-à-dire, si les vendeurs sont optimistes, à 75%, ce n'est pas leur technique de vente ou toute la partie technique qui peut être dedans qui va faire qu'ils vont réussir. C'est ceux qui arrivent en se disant, je vais y arriver et je suis optimiste et je sais que ça va marcher. Et voilà. Il n'y a donc que 25% qui est des ventes, qui est du succès de la vente, qui est dû à la compétence technique en soi.
C'est donc, évident.
C'est quand même énorme.
C'est évident.
Ça marche en immobilier, ce principe-là ?
Complètement, complètement. Tu sens même des fois, quand moi, je suis dans une énergie plus basse, où tu sens l'agence qui est dans une énergie plus basse, où les collaborateurs sont dans d'autres choses, puisque des fois, c'est plus haut, plus bas, tu le sens totalement. Tu ne transmets pas la même chose. Et même dans les recrutements, tu vois. Parce que, enfin, moi, une phrase que j'aime bien, c'est là où il y a la volonté, il y a le chemin. Donc il y a vraiment ça, si tu as la volonté, la motivation, en fait tu peux prendre tous les chemins que tu veux. Et c'est un peu ça, parce que moi mes recrutements, j'en me dis ouais mais j'ai pas d'expérience dans l'immobilier. Et c'est pas grave, parce que si tu as envie, tu pourras y arriver.
Je pense que c'est peut-être pas dans tous les métiers où il y a quand même besoin de technique et encore. Quoi que,
ça si s'apprend on a, la technique.
C'est ça, si on a envie d'apprendre, ouais, complètement.
L'envie ça s'apprend pas.
Ouais.
Et c'est peut-être là où, en fait, on se retrouve dans une problématique de la France qui enseigne de façon technique au lieu d'enseigner sur des compétences ou des capacités ou un état d'esprit. La technique, les connaissances, ça s'acquiert. Pour moi, un exemple assez flagrant, c'est l'éducation nationale, où en fait, on fait du bachotage complet et on ne recrute pas des gens sur leur capacité pédagogique, mais sur ce qu'ils ont engrangé en apprentissage automatique à annoncer des trucs, mais qui sachent... Bon, c'est un petit peu... Désolé pour tous les profs qui écouteront, mais je trouve que l'administration de l'éducation nationale, en tout cas, ne met pas en valeur chez les professeurs leurs compétences en pédagogie et met avant tout en avant, comme dans la majeure partie de l'enseignement en France, le côté apprentissage, bachotage, technique, au lieu de mettre en avant les compétences et l'expérience et l'état d'esprit.
Alors, rien n'est parfait dans l'éducation nationale en France ou ailleurs, mais j'aimerais bien revenir sur ce que disait Julie. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Donc, on a déjà de la chance de pouvoir aller à l'école, voir le bon côté des trucs. À l'école, on a quand même un apprentissage. Et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, certes, je suis archi d'accord avec toi. Hein, il vaut mieux être à l'école Montessori que dans une école, moi, nanana. Parce qu'on met plus en avant les personnes, enfin tout ça, les émotions des enfants. Mais ceci étant dit, après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et nous, du coup, à titre individuel, on peut positiver aussi. Tu vois, en France, certes, il y a des choses qui ne sont pas terribles, mais prendre le côté positif de chaque enseignement qu'on peut avoir ou autre.
Ouais. Oui, complètement. C'était juste un état général qui n'aide pas. Et après, chacun a le choix de...
Plus ou moins. Mais... Plus ou moins.
J'aurais dit que l'école apprend à apprendre. L'école apprend... t'es pas dans une acquisition de compétences. Enfin, la plupart des trucs qu'on a appris à l'école, on s'en rappelle pas, en fait. Mais il y a cette notion, c'est logique, tout ça. Donc après, est-ce que l'école va être chargée de t'apporter certaines compétences ou est-ce que ces compétences-là, de toute façon, tu les apprendras par l'expérience ? Je suis plutôt là-dessus, voilà. Et après, moi, l'école, j'ai fait l'école publique classique depuis ma petite scolarité jusqu'à la plus grande. Et en fait, chaque année, j'ai rencontré au moins un prof extraordinaire, des profs avec qui je suis en contact encore, des profs qui révèlent des potentiels. Et ça veut dire que l'école et l'éducation nationale en France, on la bâche beaucoup. Mais en attendant, je trouve qu'elle est quand même très qualitative et qu'il y a des gens extraordinaires qui la font et que leur rôle, c'est finalement de nous apprendre des manières d'apprendre et le goût d'apprendre pour aller plus loin. Parce que finalement, t'apprends jamais mieux que quand tu fais des conneries et que quand tu t'en sers comme expérience, comme on disait tout à l'heure.
Déjà, on a la chance de pouvoir aller à l'école.
c'est un peu ça, tu vois.
Pour clôturer la thématique éducation nationale, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien précisé l'administration de l'éducation nationale et pas les professeurs. Pas les
Après, enseignants. Ça n'enlève pas le débat. Hein, parce qu'il y a un vrai débat. On peut faire, à mon avis,
Oui, alors là, je pense qu'on peut faire 3 heures d'émission. Ouais.
Donc, c'est pas enlever le débat. Mais c'est juste, qu'est-ce qu'on prend... qu'est-ce qu'on prend de tout ça et comment on
changer le concept.
tisane, une vodka et au lit. C'est pas mal.
Ça, ça sera pour la saison 2.
Saison 2.
Alors moi, je voudrais TGV, tequila, gin, vodka.
Ok, très bien. Allez. Et l'abus d'alcool est dangereux
pour la santé. À consommer avec modération. Et si vous ne trouvez pas modération, cherchez quelqu'un d'autre.
Je crois qu'il va vraiment falloir qu'on change le nom. L'émission.
Tisane et au lit, c'est très bien.
Sage et compagnie.
Et quand vous avez un gros coup de mou, qu'est-ce qui vous permet de redevenir optimiste? Est-ce que vous avez un truc, quelque chose qui, je sais pas, à part l'alcool?
Un coup de mou physique ou moral?
Moral, ouais, plutôt moral. Moment où tu te dis, non mais de toute façon, ça va pas marcher, ou ça, j'arrive plus, ou je sais pas.
Non mais ouais, non, j'allais dire, j'en prends des fleurs de bac, mais je vais vous passer Pascal.
Non, ça c'est
trop... quelques secondes, je vous passe Pascal.
Non, non, ça me fait plaisir que t'en parles, toi.
Ah non, non, non.
Mais non, mais ça m'y fait penser forcément, puisque c'est un truc que je suis en train d'apprendre en ce moment. Donc voilà, donc il y a des fleurs pour ça. Mais vraiment, je préfère laisser parler des spécialistes.
C'est sympa, mais j'aurais bien aimé savoir où tu en étais.
Avant les fleurs de Bac, t'avais bien autre chose.
En tout cas, en fleurs de Bac, il y a une fleur lorsque... lorsqu'on vient de subir un petit revers, un petit quelque chose, il faut qu'il y ait cette notion où il nous arrive un petit revers dans la vie, un petit quelque chose qui nous fait baisser les bras. Alors ça peut être un jeune qui rate son permis, hein, mais ça peut être pour nous adultes, je sais pas, un truc qui...
Oui, après, il n'y a pas de...
Où on est là,
grande...
on est là, on a les bras pendants et tout ça. C'est gentiane. Gentiane, ça nous aide à rebondir et à revoir la petite lumière au fond du chemin. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est croire en notre chemin, c'est croire en notre vie, penser que la vie nous apporte...
Ah ben oui. De voir le...
Qu'est-ce qui te fait rire comme ça,
Geneviève?
J'adore la gentiane à l'apéritif.
C'est ça.
On a dit pas l'alcool.
Non, mais on y revient.
L'alcool, ça va pas. C'est pas...
C'est interdit.
Non,
donc,
non.
Donc il y a les fleurs de Bac, mais après il y a sûrement les marchés. Qu'est-ce que je peux faire moi? Tiens, aller marcher, les fleurs de Bac, un bon film en pyjama avec mon chat.
Ah ouais.
Et puis un apéro avec vous les filles évidemment.
Et une tisane et au lit.
Non, de la musique, moi de la musique.
Ouais.
Ouais. Et ouais, de la musique, aussi. Un bon morceau là qui dépote, que j'aime et qui me met la pêche. Oui. Après il faut pas que ça soit un gros coup de blues non plus, mais pour le petit coup de blues, un bon morceau de musique ça fonctionne bien.
Ouais, moi c'est pareil. La musique c'est un truc. C'est hyper... ça marche en 3 secondes. Quoi. Il y a certains morceaux où...
C'est ça. Moi, j'enfile mes baskets.
Et tu cours.
Et je cours, je marche, je fais un truc. Ça fait du positif. Ouais, ouais. Ça cultive, le sport cultive le positif. Et mais je ne suis pas très sportive. Hein, que ce soit...
Alors, après l'interview que tu as faite, plus personne ne te croit hein, quand même.
Et sinon, en fait je demande de l'aide au sens spirituel du terme. Et je demande de l'aide à ceux que j'aime. En fait, je j'appelle une copine ou j'appelle quelqu'un que j'aime et qui s'est donné de l'amour. Et du coup, après, ça va mieux, en fait. Mmh. Hein, c'est bien.
Pour les méga coups de blues, ouais, l'appel à un ami fonctionne très bien.
Jean-Pierre,
c'est ton
et c'est mon dernier mot, parce que ça, oui, sur les jours où vraiment j'ai le moral au fond, enfin en sous-sol, je vais prendre mon carnet d'adresses et je vais regarder jusqu'à ce que je trouve quelqu'un de disponible et que je puisse échanger. Et sinon, le truc qui pour moi est une évidence, c'est que dans toutes mes réflexions philosophiques sur la vie, je sais que rien ne dure, y compris les coups de blues. Donc si je me lève un matin et que je sens que franchement j'ai la tête à l'envers et que la journée démarre mal, je me dis bah, c'est pas grave, ce soir je vais dormir et demain matin ce sera passé parce que j'aurai passé une nuit dessus et c'est pas grave, donc au pire, j'ai une journée de merde devant moi et tout va bien.
Ouais. Ouais, pas mal.
Ça dure pas toute la journée en général
Ben non, parce que dès que je dis ça, en général, ça commence à aller mieux.
Oui, c'est ça, oui. Moi, je vais travailler, ouais. Je pense à autre chose et ça passe, quoi. Le coup de blues moyen, donc, du petit au moyen.
Sérieux, maintenant
ouais, c'est ça. Mais en tant que non-optimiste de naissance, des fois, le matin, je me lève et je vais vraiment pas bien. Et donc, je me dis que même si ça dure toute la journée, c'est pas grave.
Mmh. Oh, des fois,
c'est
ça
bien, c'est les hyper gros... paradoxal, ouais, c'est hyper intéressant.
Complètement. C'est le moustarde en fleur de Bac. Tu sais, la mélancolie, on sait accueillir ce moment où on est un peu dans le blues.
Oui, parce qu'au final, des fois, le blues, ça veut pas dire être pessimiste, mais c'est vrai que ça permet d'avancer aussi. Voilà. C'est...
Et c'est là aussi, halte à la dictature de l'optimisme à tout bout de champ ou à la bienséance de l'optimisme à tout bout de champ. Il y a des moments où on va pas bien, quoi. C'est point ça. Barre.
Je vais vous chanter une chanson d'Angèle, je crois.
Ah ouais, chante-nous une chanson d'Angèle.
Non, vas-y. Mais c'est le spleen n'est plus à la mode, tout ouais. Ça, c'est vraiment ça, cette chanson.
Le oui. Spleen n'est plus ouais. À la mode, voilà, c'est pas compliqué.
Tu vois, on avait dit qu'on faisait soirée karaoké.
Il y a ça aussi, franchement, pour aller bien.
Allez, chanter.
Ma prière païenne de Céline Dion, et bim.
Pourquoi?
Si on aime Céline Dion, oui.
Non, mais je n'ai pas obligé de l'aimer avec cette
non,
chanson.
Non, c'est vrai.
Tu la mets, tu sautes.
Oui, c'est ça, il y a des chansons qui...
Redonne-moi le titre, c'est laquelle de Céline Dion tu la mets, tu sautes parce que je...
Excuse-moi, j'ai eu une image, d'un seul coup, t'explosais, telle une grenade, et je me suis dit...
Merde.
Ok.
Non, sinon, c'était quoi le titre de la chanson?
Ma prière païenne de Céline Dion. Ou tu peux mettre, tu peux essayer.
Je crois que j'ai jamais entendu.
Je ne chante celle-là. Pas.
Juste les trois premières notes.
Beyoncé chante pour 5000, je chante pas pour moi.
Oh, parce qu'en fait, on vous a pas dit, on a Beyoncé.
Non. Ou J'irai où tu iras aussi. En duo avec Goldman.
Ah oui.
Celle-là aussi, pareil. Tu sautes, grenade.
Grenade. Très bien. Ah oui, non, les. Et puis chanter. Enfin, moi, je sais que notamment
fort,
les bouchons, j'ai deux choix moi, pour les bouchons et pas m'énerver. C'est soit je mets de la musique classique, juste pour me calmer vraiment, soit je mets une bonne chanson bien hyper positive et je chante à fond et je pense que tout le monde me prend pour une folle.
Mais
s'en fout. Moi, je tape et voilà, et ça passe très vite. Mais voilà, mais là c'est vraiment pour le petit coup de colère tout ça, mais non, pour gros coup de blues c'est pas pareil. Mais...
Moi j'ai pas le coup de colère dans les bouchons parce qu'en fait dans les bouchons c'est une opportunité extraordinaire d'observer les gens et moi ça me fait beaucoup rire en fait.
Donc, moi je vois que les gens sont énervés, ça m'énerve aussi.
Alors je rebondis.
Mon côté éponge, tu sais.
Oui mais voilà.
C'est sportif cette émission, dites-le.
C'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à l'optimisme au pessimisme ou etc. Parce qu'il y a des gens, ils ne se laissent pas atteindre. Ils ont cette chance, ou quand ça va trop loin, ça devient peut-être une malchance. Mais je veux dire que quand on est éponge, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir avec une information ou un environnement qui est en permanence en train de nous tirer vers le bas? Bah oui, on s'extrait de ça. Et c'est, en fait, c'est juste une question de survie, quoi.
Ouais, c'est vrai que...
Je le valide aussi.
C'est là où des fois, moi, je me dis, bon, je sens que je suis pas capable de me protéger, donc je m'en vais.
Sur cette thématique-là, je pense que tous les gens qui n'ont pas cette problématique d'être une éponge ne peuvent pas comprendre.
Oui.
C'est juste que c'est tellement en dehors de leur champ, c'est tellement en dehors de leur capacité de ressenti, et que même s'ils essayaient de se mettre à notre place... Ça resterait compliqué à comprendre.
Vous battez pas pour le micro, les filles.
Non, mais en fait, du coup, j'étais en train de me dire, est-ce que, du coup, être optimiste, c'est ça, c'est faire un choix pour pas souffrir, en fait, quelque part, tu vois? Parce que, alors, du coup, je raconte la mienne d'histoire. Moi, je pense que le jour où j'ai compris que j'allais couper et me mettre en retrait, c'était à l'époque des migrants, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais en l'occurrence, moi, c'était il y a 3 ans, et où on voyait des images de migrants qui arrivaient sur une île grecque. Et je travaillais encore dans le tourisme à cette époque-là, donc il y a 3 ans et demi. Et il y avait des images qui montraient des gens sur des transats et qui disaient « Oh là là, franchement, les vacances, elles sont un peu pourries. Il y a des gens qui passent au bout de la rue. C'est des migrants, enfin, au bout du transat, quoi, sur la plage. » Et là, ça m'a... Déjà, les migrants, c'est un truc qui me touche. Je sais pas pourquoi, mais ça me touche particulièrement. Après, chacun, c'est sujet. Et le fait d'entendre ça, moi qui travaille dans le tourisme, et d'entendre des gens qui puissent dire un truc pareil, eh ben, je sais pas, ça m'a touchée, mais 10 millions de fois plus. Et je me suis dit, c'était insupportable pour moi, en fait, de voir ça, de voir où on en était au niveau des migrants, de voir ces bateaux qui arrivaient, etc. Donc ça, c'est effectivement un sujet qui me touche. Et du coup, je me suis dit, je vais me mettre en retrait. C'est pas pour ça que je suis pas au courant et que je vais pas participer à aider, à essayer de faire des choses, etc. Mais je veux plus entendre cette manière-là de raconter les choses. Et du coup, je me suis mise en retrait, mais vraiment volontairement, quoi. Et c'est moi, ça a été vraiment mon déclencheur, ça. Ça a été un truc... puis alors de voir ces touristes écrasés sur la plage qui disaient « Mes vacances sont foutues parce qu'il y a des migrants au bout. » Enfin, ça m'était vraiment insupportable. Et je me suis même demandé à quoi ça servait. Enfin, le gars qui a fait le reportage, à quoi ça servait de diffuser des images pareilles. Enfin, aucun intérêt, quoi.
Ben si, mais ça justement, oui, quel est l'objectif? Qu'est-ce que ça sert?
C'est ça, ouais.
Bah, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Si, je travaille dans un magasin, vous savez, en plus de mes fleurs de Bac, je travaille dans un petit magasin.
Bah, nous, on sait, mais ceux qui écoutent, non.
Ah, alors je travaille dans un petit magasin bio à Villeneuve, un petit magasin super sympa. J'aime beaucoup aller travailler là-bas. Et ceci dit, dans une après-midi, je vois à peu près 80 personnes. Donc, il y a 80 personnes qui rentrent avec ses humeurs, ses états nanins. Je suis contente, je suis heureuse, je suis fatiguée, drôle, gentille. Enfin, tu vois, rien n'est ni mauvais ni bien. N'empêche que c'est 80 personnes qui me déversent 5 minutes toutes leurs énergies. Donc, comment se protéger de ça? Alors, vous allez dire, ce soir, je suis fleur à fond. Hein. Bon, déjà, j'ai ma fleur walnut, mais ceci dit, oui, il faut se protéger de toutes ces agressions qu'on reçoit. Alors comment? Après, chacun va avoir sa méthode, mais sinon, c'est insupportable. Je suis sensible, hein. ça me touche, moi, tout ça. La mamie qui va me dire qu'elle est trop vieille, celle qui s'est engueulée avec son mari, tout ce que je peux entendre dans une journée avec 80 personnes.
Pour ça, les commerçants, je pense qu'ils prennent...
C'est impressionnant, toi aussi, certainement. Mmh. Et donc, oui, se protéger. Après, c'est une volonté politique de notre part. Il y a des volontés politiques de regarder BFM TV ou pas. Après, c'est chacun fait comme il peut avec ce qu'on a. Moi, je reconnais que la télé, c'est switch off depuis longtemps. Je préfère regarder des films et des choses comme ça. Mais après, on fait comme on peut.
Oui,
hein.
Ou de choisir,
tout ça, on fait comme on peut. Hein.
Quand on disait que c'était un choix, c'est ça aussi. C'est, tu peux choisir aussi ce que tu regardes ou ce que tu regardes
pas. Il faut se protéger. Après, j'ai l'impression qu'il faut se protéger. Mais après, on fait comme on peut. Hein. Toujours pareil. Hein.
Alors moi, j'ai envie de dire que l'étape d'après dans l'optimisme, c'est d'être arrivé à un état de bienveillance avec soi-même tellement abouti que justement on n'a plus besoin de se protéger. Parce que la protection, c'est quand même une séparation avec les autres, quels qu'ils soient. Et le but, dans le chemin, en tout cas dans le chemin qui est le mien, c'est qu'on pourra laisser personne derrière, même les gens qui m'insupportent ou avec qui je ne suis profondément pas d'accord, on réussira ensemble ou pas, ou on ne réussira pas. On ne peut pas laisser qui que ce soit derrière nous. Donc l'idée, c'est dans ce que l'on fait pour nous et dans la façon dont on est bienveillant, dont je suis bienveillante avec moi-même et la façon, l'amour que je me prodigue à moi-même, c'est d'en déverser suffisamment dans mon cœur que je puisse avancer les bras ouverts et le cœur ouvert, et que qui que ce soit qui arrive en face, bah, il me traverse et il n'entame pas. Et donc, je n'ai plus besoin de me protéger.
Eh ben, c'est une protection, ça. Et c'est comme ça que je me protège. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent, je ne le prends pas pour moi. Et je sais que ça me traverse, ça passe à côté, et je ne vais pas, moi, prendre chaque chose. Après, il y en a qui c'est un peu plus difficile que d'autres. Mais oui, c'est un peu ça. Et puis, chacun a son histoire, donc la bienveillance, il faut l'avoir pour soi et pour l'autre. Même celui que je déteste le plus. Parce qu'il y a deux, trois clients
soi, déjà,
qui m'insupportent. Mais ceux-là, j'essaie d'être bienveillante avec eux aussi. Du coup, c'est ça qui me pose. En fait, ma protection à moi, elle est là. Mais après, Julie, je ne sais pas comment tu fais.
Mais parce que Julie, tu dois aussi entendre des histoires. Enfin, moi, quand j'ai acheté une maison, soit c'était des successions, soit c'était des divorces.
Oui, enfin, c'est toujours pareil. Moi, ces histoires-là, elles ne m'appartiennent pas. Elles sont aux autres. Après, tu es plus ou moins sensible, tu es plus ou moins empathique par rapport à la situation. Et puis après, du coup, il y a des gens avec lesquels tu crées des histoires, en fait, parce que finalement, ben, un jour, j'ai rencontré une dame. J'ai pas vendu sa maison, mais par contre, elle m'a parlé de la maladie de sa fille, qu'elle avait perdu sa fille, etc. Et en fait, cette dame, on est resté tout le temps en contact depuis, ça doit faire 6 ans qu'elle a vendu sa maison, que je n'ai pas vendue. Et voilà, donc tu crées des jolies histoires parce que finalement, elle était très triste, cette dame-là. Et maintenant, on partage que des jolis moments. Voilà, elle passe de temps en temps à l'agence. On s'envoie des petits messages sur les réseaux sociaux. Donc après, tu peux garder du positif dans ça. C'est sûr que des fois, tu entends des histoires un peu glauques, de gens qui se déchirent, de gens... Mais bon, voilà, moi, ça ne m'appartient pas. Vraiment, ça c'est mon sujet. Et après, je fais du mieux que je peux pour être bienveillante avec ceux que je croise. Après, il y en a, ils ne méritent pas ma bienveillance, donc ils n'ont rien. Un petit sourire, et puis voilà. Mais c'est ça, c'est plutôt prendre ça pour mettre de la distance. Après, ce n'est pas évident. Et ça demande beaucoup de travail, puisque avant j'étais très éponge, donc comme je suis hyper, enfin les émotions sont hyper exacerbées chez moi, du coup c'était compliqué.
Ah, c'est beaucoup d'énergie quand même. Tu vois, tu racontais avec une personne qui t'avait envahi ton espace. Ouais, ouais. Imagine quand t'en as 80 ou t'en as 15 dans c'est la ça, journée.
Ouais. Mais puis même quand des fois quand
ça nous empêche pas d'être là ce soir toutes les quatre, hein, tu vois.
Cinq, on est cinq. Non, mais si, 4 plus toi.
4 plus toi.
Enfin, 4 micros, quoi.
C'est dommage, c'est le micro qui n'a pas...
Il manque un micro.
Voilà.
C'est le Père Noël, hein, il m'a pas... Non, mais c'est mon côté positif, tu vois. C'est ah, OK, on est 5, il y a 3 micros, c'est pas grave. On va s'en sortir.
Demande à l'univers. Il y en a un qui va venir.
Toi qui me tombe pas sur le... Non, non, mais voilà, c'est ça, mon côté positif. Il y a 3 micros, on est 5, c'est pas grave. Donc voilà, vous entendez des bruits de micro, j'ai oublié mes pieds, tout va bien.
Mais elle est quand même arrivée, elle est quand même arrivée à marcher sur le pont.
Mes pieds de micro, j'entends.
Mais heureusement, ce soir, il y avait la sauge.
C'est ça, il y avait la sauge. C'est bien la sauge. Est-ce qu'il y a des plantes qui rendent optimistes? Je sais pas. Pas en les fumant, hein.
Après l'alcool.
Je pensais aux tisanes. Oh. T'as pas une...
Alors si, il y a le fenouil.
Super. Je vais partir.
Désolée pour ceux qui aiment pas le fenouil.
Je déteste ça.
Vraisemblablement celle qu'on a bu avant de commencer aussi, hein, optimiste. Je veux la recette.
Non, c'était celle avant de commencer, c'était un coup de froid, donc ça allait, c'était du gingembre, du citron, racine de réglisse, mauve et c'est tout.
C'était
bon. Et un citron.
C'était trop bon.
C'était trop bon.
Voilà. Donc on sera non, pas mais malade, mais pas optimiste.
Le fenouil rend joyeux, c'est vrai, le fenouil rend joyeux.
J'ai une question.
C'est Hildegarde de Bingen qui l'a dit. Hein.
Ah bah si elle l'a dit. Ouais.
Est-ce que tu peux juste nous rappeler qui est Hildegarde, parce qu'on n'a pas tous été présentés.
Alors, tout le monde n'a pas regardé la vidéo sur Hildegarde de Bingen. Non, c'est une abbesse qui vivait au Moyen-Âge et qui a posé les bases de la naturopathie, on va dire. Voilà.
Okay.
Ils sont trois, d'ailleurs.
Donc, vive le fenouil.
Hildegarde, Steiner et Bach.
Tout à fait.
Ce soir, j'ai envie de parler de Bach.
Je crois que ce soir, nous avons...
J'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut rester positive lorsqu'on a un rhume et une angine qui est en train de nous monter, qu'on a
en direct
yeux
live.
Qui pleurent, qu'on a une grosse écharpe autour du... et qu'on s'essuie les yeux, comme ça, on a une grosse écharpe autour du cou. Est-ce qu'on arrive à garder quand même un côté positif?
Le fenouil.
Oui, oui, on arrive à garder un côté positif parce qu'on a mis du titri sur ses amygdales et que ça va, en fait, et que c'est très agréable de discuter avec vous, mesdames, ce soir. Donc, on arrive à garder un côté positif, oui.
T'essayes de faire quoi, là, de lui s'appeler moi?
Non. Elle teste sa capacité à rebondir sur du positif. Je trouvais ça trop génial. Je la vois, là, quand même. Elle a l'air de souffrir, les filles. Et malgré elle arrive à parler positif.
Elle rigole tellement qu'elle pleure de rire.
Je trouve que c'est la meilleure preuve que
tout est possible.
Avec une grippe, vous pouvez faire une émission radio.
Que le positif est là malgré tout. Voilà, c'était ça.
Je suis optimiste et j'ai pas de grippe. Hein. C'est juste, juste un petit coup de froid. Juste
d'où viendrait le fait que d'être malade, quelle que soit la maladie, rendrait forcément pessimiste?
Non, ça aurait pu la rendre pas très positive ce soir.
C'est ça.
Pas forcément pessimiste, mais pas très positive. Mais en fait, non.
En fait, non, tout va bien, merci.
Non, mais c'est la magie du micro.
Mmh. Ouais. Fait quand même deux unique micro, en effet.
Ou deux demi-micros, comme vous voulez. Bon, ça va, moi j'ai un micro-cravate dans la main.
Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire sur les avantages d'être optimiste et sur l'importance d'être optimiste, c'est que moi, dans mes croyances et dans ma façon de regarder le monde et la vie, c'est que ce que nous dégageons, donc en fait d'un point de vue vibratoire, si on s'en réfère à des choses plus plus actuelles sur le sujet, donc tout est vibration et ces vibrations, elles vont on parlait de musique, les notes en mineur ou en majeur ne dégagent pas du tout la même vibration et la même sensation. On sait très bien que les gens qui veulent faire une chanson triste, ils vont choisir des notes en mineur et donc ce que nous dégageons impacte, puisque ces vibrations, elles traversent tout le vivant, Donc si on choisit d'être optimiste, on va dégager des vibrations qui vont permettre aux choses d'avancer. Nos pensées créent le monde. Donc nos pensées dégagent une vibration qui vont créer ce qui va se produire demain. Donc pensons positif et notre monde va s'en porter beaucoup mieux.
Tu crois qu'on peut influencer le monde?
Complètement. Ça, c'est ma croyance.
Bah oui, c'est sûr. C'est sûr.
Individuellement. C'est sûr. Parce que si tous individuellement on pense ça, tu te rends compte la vague ensuite que ça peut provoquer. Mmh.
Oui, je suis d'accord.
Tsunami de bonheur.
Tsunami de bonheur, j'adore. Ouais,
ouais. Alors, j'adore. Juste pour préciser ma pensée, je n'ai aucun pouvoir sur qui que ce soit. Je n'ai de oui. pouvoir que sur moi-même. Par contre, je peux choisir ce que je diffuse. Et donc, les gens autour de moi peuvent choisir, parce qu'ils me voient aller bien, de me copier.
Ah, moi, je suis convaincue qu'effectivement, quand tu es optimiste, que justement, tu as le sourire. Rien que le sourire, en fait, c'est... Moi, le truc qui m'a marqué quand j'étais petite, c'est ma prof de danse qui me disait toujours, même quand vous êtes de dos au public, il faut sourire, parce que ça se voit. Donc la première fois qu'elle te dit ça, tu rigoles. Et en fait, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pareil au micro, même s'il n'y a pas l'image, si tu souris, ça va s'entendre. Au téléphone, c'est la même chose. Et donc, bah, encore mieux si tu es en face de quelqu'un, c'est que... un vrai sourire, hein, pas... Julie me fait un sourire de joker. Fait limite flipper.
Sympa.
Parce que pas naturel. Mais voilà, mais je pense vraiment que plus tu vas avoir un comportement positif, plus tu vas réussir à aussi. Enfin, que les gens autour vont ressentir ça. Et nous avons un bateau qui passe à côté.
C'est ce que tu disais sur les ventes là, sur le fait qu'il y avait pas que la technique était pas importante. En fait, c'est enfin, t'es oui. pas importante, t'es moins importante que le reste. C'est ça, c'est tout ce que tu vas dégager de positif.
C'est un quart, c'est
voilà, et c'est ça va convaincre et ça va fonctionner en fait, simplement.
Complètement. Bonjour le Pégase qui passe.
Oui, il est un peu tard pour le Pégase.
Je sais pas, j'ai décidé que c'était le Pégase.
C'est qui?
Pégase est une péniche qui passe le Rhône plusieurs fois par voilà. jour.
Moi, j'avais une question que j'ai oubliée. Qu'est-ce qui t'a fait changer, Geneviève? Tu disais justement qu'au début, tu étais plutôt pessimiste et que d'un coup, tu es passée de côté lumineux de la force.
Ben, peut-être tout simplement le besoin de vivre plutôt que de survivre. À un moment donné, trop c'est trop, et soit on en crève, soit on décide de vivre vraiment, et pas juste de vivoter ou de... Voilà. Et moi, je vais redonner la citation que j'avais faite dans ce petit esperluette, c'est vivre, c'est pas forcément... et être optimiste, c'est pas forcément être tout le temps fly-fly, quoi. C'est juste de dire que c'est rêver et rêver en grand, hein, et que si nos rêves sont pas assez grands, c'est enfin si nos rêves ne nous font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. Donc on peut avoir peur, on peut vivre des choses difficiles, et comment on décide de regarder les choses. Et moi, j'ai décidé de vivre au lieu de survivre.
C'est une bonne idée, moi, je trouve. Bon choix.
C'est moi, j'adore, hein, si nos rêves sont pas assez grands, hein, s'ils ne font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands.
Ouais.
J'avais jamais pensé à ça, mais oui.
Mais oui, je suis.
C'est joli ce que tu viens de dire,
d'accord.
C'est profond.
Oui, la peur n'empêche pas l'optimisme, en fait. Je pense que c'est la vraie conclusion de tout ce qu'on s'est dit, c'est ça, c'est que être optimiste, c'est pas forcément être bisounours ou quoi que ce soit, ou hors de la réalité, ça n'empêche pas de connaître les choses. Mais par contre, ça permet d'avancer et ça évite. On peut avancer avec nos peurs, on peut avancer avec plein de choses, quoi. C'est voilà, je pense que c'était une belle conclusion. Moi, j'avais une petite citation que j'aime bien, mais qui est plutôt sur le sourire, mais je trouve que le sourire, ça amène à l'optimisme et au positif, qui vient de l'abbé Pierre, qui est « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. » Et j'aime beaucoup.
C'est joli. Voilà.
Donc, bah, merci beaucoup à toutes les quatre d'être venues sur cette belle péniche. Et puis, ben, je souhaite à tout le monde d'avoir une petite dose d'optimisme après cet épisode. Et puis, ben, maintenant, on va aller boire une tisane et au lit.
Et au lit.